Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le premier dimanche du mois et c'est donc le dimanche réservé aux enseignements de doctrine. Les dimanches où on revisite ou peut-être on découvre les fondements de la foi. Je reprends souvent cette formule que je dis régulièrement quand c'est moi qui prêche les premiers dimanches du mois. Ce sont des enseignements, des prédications qui doivent permettre aux chrétiens de répondre à des questions liées à sa foi. C'est-à-dire, toi tu t'es dit chrétien, mais en quoi tu crois au juste? Tout le monde n'est pas appelé à être un théologien, mais il faut quand même avoir compris et pouvoir formuler plus ou moins clairement ce en quoi nous croyons. Le thème de ce matin, c'est le royaume qui vient, ou le royaume à venir. On sent bien que c'est les théologiens qui ont choisi les thèmes. Le royaume à venir, tout un programme. Le royaume à venir, le royaume futur. Donc si je comprends bien, c'est un royaume qui n'est pas encore là, qu'on attend, qui doit s'établir dans le futur. Mais moi, c'est un thème qui me pose un problème. Parce que le psaume 93 dit, l'Éternel règne. D'éternité en éternité, il règne. Donc le royaume de Dieu, pour moi, il n'est pas futur. Il existe, et existera, et existait depuis toujours. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, le royaume à venir? On a déjà une petite indication dans le livre du prophète Daniel. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On lira plusieurs petits versets. Ça ne sera pas un commentaire d'un passage. On va parcourir quelques versets. Dans le livre du prophète Daniel au chapitre 2, au verset 44, on est là dans une vision. Le prophète Daniel, au verset 44, après avoir commenté cette vision ou ce rêve, le passage est un peu long, donc j'ai juste extrait ce verset. Il dit donc, Daniel 2, 44, à l'époque de ces rois-là, c'est-à-dire que là, Daniel vient de parler d'une succession de royaumes, à l'époque de ces rois que je viens de citer, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence. Mais lui-même subsistera éternellement. Là, Daniel raconte que dans l'histoire des nations, viendra à un moment donné de l'histoire, un royaume que Dieu, celui qu'il appelle dans ce verset le Dieu des cieux, établira un royaume, donc nouveau, qui ne sera jamais détruit. Et qui subsistera éternellement. Quelques chapitres plus loin, en Daniel chapitre 7, au verset 13 et 14. Daniel chapitre 7, verset 13 et 14. Daniel là explique une vision qu'il a reçue lui-même. Daniel 7, chapitre 7, verset 13 et 14. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire, et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues, lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Amen. Voici donc deux paroles du prophète Daniel. Il dit, le temps viendra où Dieu établira un royaume. Ce royaume tiendra à jamais et subsistera quand tous les autres royaumes des nations seront détruits. Et Daniel dit ensuite, préciser le profil de ce nouveau royaume, que celui qui aura la royauté dans ce royaume futur, bizarrement Daniel le voit comme dans les cieux. On se serait donc attendu peut-être à un ange, à un être céleste extraordinaire. Mais là, dans sa vision nocturne, Daniel semble apercevoir du haut des cieux quelqu'un qui ressemble à un, c'est-à-dire qui ressemble à un homme, tout simplement, d'accord, fils d'homme, c'est-à-dire que, à sa grande surprise, Daniel voit quelqu'un qui descend des nuées et qui ressemble à un fils d'homme extraordinaire. Son royaume durera à jamais. C'est bien Dieu qui établit son royaume là. C'est bien le royaume de Dieu. C'est bien le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il vient des cieux. Mais bizarrement, c'est un homme. Il y a plus de 2000 ans, un homme en effet est venu. Son nom, c'est Jésus. Cet homme s'est appliqué cette prophétie de Daniel. Il a dit, je suis moi, celui qui descend dans les nuées. On peut le lire en Matthieu chapitre 26. J'espère que mes notes sont bonnes. Voilà, Matthieu au chapitre 26, versets 63 et 64. On est là au moment de l'arrestation et du procès de Jésus. Ce Jésus est accusé de blasphème, se faisant passer lui, le fils du charpentier, pour le fils de Dieu. Waouh! Mais pour qui il se prend, celui-là? Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant, je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le fils de Dieu. Verset 64, Jésus lui répondit, tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. Pour ceux qui, comme moi, ont des annotations dans leur Bible, donc, quand il est écrit « venir en gloire sur les nuées du ciel », il y a une référence qui fait référence au verset qu'on a lu, Daniel chapitre 7, verset 13. Jésus s'applique cette prophétie. Donc si je recoupe donc tout ce qu'on a dit jusque-là, Jésus est bien le roi annoncé par Daniel qui établira ce royaume qui ne disparaîtra jamais. Jésus, au moment de commencer sa prédication, précédé par le prophète Jean-Baptiste, disait, le royaume des cieux s'est approché. Ne soyez pas timide. Ou le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux est proche. Jésus l'a proclamé quand il a commencé sa prédication. Ça veut dire que le royaume des cieux commence au moment de sa venue. Jésus a utilisé des images pour parler de son royaume. Par exemple, en Matthieu chapitre 13, au verset 31, Matthieu 13, verset 31, Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. Une toute petite graine. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte se lève. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, existe déjà, comme nous le dit le psaume 93. Le royaume de Dieu s'est approché en Jésus-Christ, comme Jésus l'a dit lui-même. Le royaume de Dieu s'accroît, se propage et s'étend jour après jour comme une petite semence plantée qui pousse. Mais en même temps, le royaume de Dieu est à venir. Vous me suivez? Il est déjà passé. Il est en train d'arriver, mais il arrive encore par ailleurs. Jésus dira en Matthieu 26, c'est des passages qu'on lit souvent au moment de la scène. Jésus partage là son dernier repas avec ses disciples. Matthieu 26, verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Et ce verset 29. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans ce royaume à venir, je boirai avec mes disciples du vin nouveau. Luc chapitre 22. Cherchez, hein, cherchez les textes, s'il vous plaît. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 28 à 30. Jésus parle à nouveau à ses disciples et dit, « Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Jésus la parle bien au futur. Hein? Vous mangerez, vous boirez et vous siégerez dans mon royaume que mon Père m'a donné. C'est pas facile hein, de comprendre ça. Dieu règne déjà. Et pourtant, il y a bien un règne qui n'est pas encore effectif, qui est à venir. Comment comprendre ça? Pas facile pour notre intelligence humaine. Mais un moyen de le comprendre, c'est de réfléchir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est présentée sous deux aspects dans la Bible. Pour utiliser des mots un peu compliqués ce matin, on parle de la volonté décrétive et de la volonté préceptive. Je vais l'expliquer. La volonté décrétive, c'est le règne de Dieu depuis toujours. C'est-à-dire que décrétif, rien ne se passe ici-bas, ni dans le ciel, sans que Dieu ne donne son décret. C'est-à-dire que sans que Dieu ne soit au contrôle, sans que Dieu ne soit, je dirais, impliqué. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. À ce titre, Dieu règne. C'est lui qui a tout créé, la terre et les cieux. Et rien n'échappe à son contrôle. Et il règnera à jamais. Ça, c'est la volonté décrétive de Dieu. Ce que Dieu décrète, rien n'échappe à son contrôle. Maintenant, il y a la volonté préceptive. Les préceptes. Les préceptes de Dieu, c'est les commandements de Dieu. C'est ce que Dieu souhaite. C'est ce qui plaît à Dieu. Il est manifeste, là, pas besoin d'être chrétien pour savoir que ce qui se passe ici-bas n'est pas vraiment conforme à ce que Dieu souhaiterait pour l'humanité. Et donc, cette volonté préceptive de Dieu, elle n'est pas toujours accomplie. Loin de là. Et par un mystère qui nous dépasse, Dieu permet que le mal s'illustre ici-bas. Vous voyez? La volonté décrétive de Dieu, c'est que rien n'échappe à son contrôle. Et la volonté préceptive, je vais y arriver, de Dieu, c'est que tout ne se passe pas exactement comme Dieu l'aurait souhaité. Mais attention, il ne faudrait pas penser que les choses lui échappent. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. En tout cas, pour moi, c'est difficile. Il dirige tout, il contrôle tout, mais en même temps, par un mystère qui nous dépasse, Dieu laisse comme faire des choses qui ne lui plaisent pas. On peut avoir du mal à le comprendre, mais c'est bien l'enseignement de la Bible, depuis la chute en Genèse, voyez. Et donc, si on a bien compris ces deux différences de la volonté de Dieu, le royaume à venir que Jésus doit instaurer, c'est le royaume où la volonté préceptive de Dieu va s'appliquer pleinement. Le temps viendra, et là il n'est pas encore venu malheureusement pleinement, le temps viendra où tout se passera conformément à ce que Dieu souhaite. Et c'est ça que Jésus doit établir et implanter. Il a commencé à l'établir. Comment est-ce qu'il a établi? En mourant à la croix de Golgotha. Je ne vais pas résumer tous les enseignements qu'on a faits, mais vous vous rappelez, il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, pour ceux qui croient en lui. Il est assis à la droite de Dieu, et il intercède. C'est comme ça que le royaume de Jésus commence. Mais il n'est pas encore pleinement établi. Parce que le mal continue à agir ici-bas. Mais justement, Jésus est mort et est ressuscité. Pour que tous les hommes qui croient en lui, qui placent leur foi et leur confiance en lui, aient cette espérance. Là, on utilise le mot d'espérance. Parce qu'on ne le voit pas encore de nos yeux. Je répète, ce royaume, il n'est pas encore là. Mais le chrétien qui croit en Jésus-Christ sait avec assurance que ce royaume-là viendra un jour. L'Église, à la fin du livre de l'Apocalypse, il est dit que l'Esprit et l'Église disent « Viens, Maranatha ». Viens, viens Seigneur, viens Jésus. C'est ça la vie du chrétien, l'attente du royaume de Dieu. Et donc le chrétien est quelqu'un qui attend cette heure-là, voyez. Il attend cette heure parce que pour lui, il s'imagine que ce royaume va être extraordinaire. Et c'est là où le prédicateur, il faut qu'il puisse communiquer à l'Église de Jésus-Christ que ça sera vraiment extraordinaire. J'ai pas de mots. Et l'émotion monte. Mais ça sera pour le chrétien quelque chose d'extraordinaire. Et nous attendons ça. C'est ça notre espérance. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Le royaume à venir. C'est pas un royaume que je vais voir passer pour dire, ah, mais comment il s'éclate là-bas, c'est bien. Non, c'est un royaume où je vais être avec Jésus. Pour l'éternité. Tout genou fléchira devant notre Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes comme bafoués, nous sommes, je dirais, moqués, le chrétien attend ce jour-là où il dira, enfin, ce en quoi j'ai cru est là, visible de tous, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est
Seigneur.
Amen. Il n'y aura pas de doute ce jour-là. Et nous l'attendons cette heure-là. Ce jour sera pour nous le jour de la présence effective de Dieu. Ce que Jésus a dit à ses disciples-là s'applique aussi à nous. Il est dit en Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Le vainqueur, c'est Jésus qui parle, je le ferai siéger sur mon trône. C'est fort hein, quand même. Hein? Je pense qu'on ne réalise pas assez. Quand on lit ça, on se dit, oh Jésus, peut-être qu'il exagère. Mon Dieu. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi, c'est Jésus qui parle, sur mon trône, comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus lui-même qui le dit. On sera comme en train de siéger avec lui sur son trône. Ce royaume à venir sera pour le chrétien la fin du deuil, la fin des larmes, la fin des souffrances. Et là, on peut lire Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un ciel nouveau, verset 1. Une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis d'une forte voix venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Voici aussi pourquoi nous attendons ce royaume. Si notre sort à tous ici-bas est de soupirer, comme l'apôtre Paul le dit, le jour viendra où notre joie sera pleine et entière. Il n'y aura plus ni deuil, ni mort, ni maladie. Amen. Ce jour sera aussi la défaite ultime du diable et tous les anges à son cortège. Si le bien et le mal donne l'impression de cohabiter actuellement, le jour viendra où on fera nettement la différence. Le bien, le camp de Jésus-Christ, triomphera, et le mal, le camp de son ennemi, sera condamné aux peines éternelles. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Alors le diable qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète. Ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Nous attendons ce royaume. Je me demande si au-delà de le chanter, au-delà de le lire, au-delà de s'en réjouir, j'espère que c'est notre cas ce matin. Cette prédication de ce matin est faite pour nous remplir de joie. Je vois les visages graves. Est-ce que vraiment dans ma vie de tous les jours, j'attends ce royaume à venir? Ah, il ne s'agit pas de le dire simplement. C'est ça la vie du chrétien. Je vis ici-bas comme étant déjà là-haut. Aspirer aux choses d'en haut. Il ne faut pas que je me dise, je mène ma vie et ce royaume à venir, oh ben comme il est futur, j'ai le temps. Non, 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 non. Je l'attends et je vis tous les jours comme s'il pouvait surgir à n'importe quel moment. Peut-être que ça, c'est un critère pour savoir qui est bon chrétien et qui est moins bon chrétien. Je me l'applique à moi-même. Bien des fois, je pense qu'on a d'autres priorités que le royaume à venir. Mais Jésus lui-même nous dit qu'il viendra comme un voleur. S'il vient là maintenant, suis-je prêt? Est-ce que je vis ma vie de tous les jours en me disant que je suis prêt à l'accueillir, mon roi, s'il vient là maintenant? Ça, c'est difficile. Heureusement qu'on a l'Esprit de Dieu pour nous aider, mais il faut que le chrétien sache que le fait qu'il aspire, qu'il attende ce royaume de Dieu qui est à venir, doit influencer son éthique de vie, sa manière de vivre aujourd'hui. Pas demain, pas après le message, pas après, non, mais là, tout de suite, est-ce que je suis prêt à entrer dans ce royaume à venir? Voilà la question qui nous est posée. L'Église dit « Viens ». L'Esprit et l'Église disent « Viens Seigneur, viens ». Et c'est bien ça qu'on a chanté. C'est d'ailleurs bien ce que Jésus nous apprend dans le Notre Père. Que ton règne vienne. Dommage qu'on le récite des fois peut-être un peu trop mécaniquement. Mais quand on dit ça, c'est comme si j'appelle quelqu'un, je dis « Viens ». Viens Léon, je t'attends, viens. Et je raccroche et je continue, mais non, mais si je te dis de venir, c'est que je veux que tu viennes. Vous voyez? Ok. J'ai peur que ce soit la seule phrase que beaucoup retiennent de ce message. Je me demande si c'était pertinent comme exemple. Mais bon. Si on dit viens, que ton règne vienne, mais c'est que, oui, je me prépare. Je l'attends, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais donc, Seigneur, j'y suis. Bien souvent, on dit que ton règne vienne, mais dans notre cœur, on dit au Seigneur, attends un peu. J'ai trop de bonnes choses à faire ici-bas pour l'instant. J'ai trop de kiff ici. S'il te plaît, attends un peu, je suis pas prêt. Voyez les contradictions. Ça fait sourire, mais c'est des sujets sérieux. L'Église dit « Viens » et chaque chrétien doit vivre comme quelqu'un qui dit « Viens, viens et viens, je t'attends, viens régner en moi. » Voici le royaume que nous attendons. Et si nous attendons ce royaume, la Bible nous dit aussi que nous reflétons ce royaume d'ores et déjà. D'abord, on a ce passage en Matthieu 6 qu'on a lu, ou plutôt qu'on a chanté. Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Il est à venir, mais je tends vers lui. Je le recherche, j'y aspire. Et en Romains, chapitre 14, épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17, l'apôtre Paul dit, car le règne de Dieu, alors là je fais une petite parenthèse, en grec, le mot qui est traduit par règne, je reprends, en grec, c'est le même mot qui est traduit soit par règne, soit par royaume, d'accord? C'est le même mot, hein? Ok, donc, car le règne de Dieu, ou donc le royaume de Dieu, ne consiste pas à réglementer le manger et le boire. Là, Paul est dans une polémique entre certains qui disent faut pas manger, faut pas boire, faut pas faire ci. Mais il dit, mais le royaume de Dieu, c'est pas ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Ce royaume de Dieu, dans lequel nous ne vivons pas encore, nous l'avons dans notre cœur, déjà, comme prémisse. Parce que l'Esprit Saint produit en nous la justice, la paix et la joie. La justice que Jésus nous donne, elle n'est pas future. Nous sommes justifiés, déclarés justes, d'ores et déjà. L'Esprit Saint nous en convainc. Et si nous sommes convaincus de ça, alors nous devons ressentir une joie parfaite, et ressentir une paix de l'âme qui sait que le jour venu, Jésus lui dira, entre, entre et viens dans ma présence. Vous voyez, c'est des mots qu'on entend tellement, justice, paix, joie, ça paraît, mais c'est du concret. Comment est-ce que c'est du concret? Parce que dans la vie du chrétien, ils doivent s'illustrer par sa manière de réagir dans les situations de la vie. Si j'ai vraiment par l'Esprit Saint la joie d'être dans ce royaume à venir, alors mes problèmes ici-bas, certes, me donneront des soucis, des tourments, mais ne doivent jamais me conduire au désespoir. Parce que j'ai une assurance, j'ai une certitude. Oui, c'est une espérance. C'est vrai, je ne la vois pas encore. Mais j'en suis tellement sûr, c'est comme si je la possédais déjà. Le royaume de Dieu est une réalité pour les chrétiens. Si vraiment j'ai la paix d'être réconcilié avec Dieu, alors je ne dois pas me laisser tourmenter par des gens qui pourraient me juger ou me condamner. Si vraiment je suis en paix, alors s'il m'arrive de pécher, grosse tristesse pour moi, mais je me réponds, je change, je me relève et je continue ma marche et je suis en paix avec mon Dieu. Personne ne peut venir me faire douter de mon salut. C'est ça ma paix. C'est une victoire. C'est une victoire, frères et sœurs. C'est une victoire parce que quelqu'un a payé le prix pour que ce soit certain. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. C'est ça, on est devenu une propriété pour lui. Personne ne nous a prêté à Jésus pour nous récupérer après. Il nous a rachetés. C'est ça notre assurance. Alors je vais m'arrêter là. Le temps est bien vite passé. Le thème du jour, c'était le royaume à venir. Ce royaume futur. Oui, il est futur dans sa plénitude, mais il est déjà une réalité pour celui qui place sa confiance et sa foi dans ce roi, parce qu'il règne déjà dans son cœur. Quand on parle du royaume à venir, il y a un point sur lequel les chrétiens se divisent. Et j'ai fait exprès de l'éviter ce matin, parce que c'est un thème qui dépasse mes compétences. Peut-être mes grands frères Peter et Sylvain pourront s'y attaquer avec plus de brio. J'en dis juste quelques mots. Il y a dans l'Apocalypse un texte qui laisse entendre que le règne de Jésus, son règne plein, la plénitude de son règne, ce royaume à venir, final, sera précédé d'une période de 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Millénium, c'est 1000 ans. Alors, il y a des débats pour savoir est-ce que ces 1000 ans se passent avant que Jésus ne vienne pour instaurer son royaume, ou alors est-ce que Jésus vient et il commence son royaume par ces 1000 ans, et ensuite, il y a vraiment son, on dit, mais son vrai royaume, enfin son royaume plein. c'est une question qui, elle seule, pourrait faire l'objet d'une prédication totale. Simplement, les arguments des deux camps restent valables. Mais aujourd'hui, je préfère me projeter sur le royaume final. On aura, je pense, peut-être l'année prochaine, l'occasion de parler du millénium. Mais cela ne change pas grand-chose pour le chrétien en réalité, qui lui se projette au-delà des 1000 ans, dans l'éternité, auprès de son Seigneur. Alors, en conclusion, je nous exhorte à mener une vie qui dise à Jésus-Christ, viens, fais le ménage dans ta vie. pour recevoir ce roi. Il y a du ménage à faire dans la vie de chacun d'entre nous. N'attends pas. On ne sait pas quand la mort peut nous surprendre. Et on ne sait pas quand le royaume peut surgir, quand Jésus peut revenir. Ce qu'on peut maîtriser, par contre, c'est notre vie. Et là, il est encore temps aujourd'hui d'y faire le ménage et d'y préparer toute la place pour celui qui doit occuper dans notre vie la place du roi. Amen.